Bonjour à tous, je suis Jonathan Siboni, fondateur et CEO de Luxury Insight, la première plateforme de data intelligence des maisons de luxe. Toutes les deux semaines, Godfrey Dini, rédacteur en chef international, et Olivier Guyot, rédacteur en chef France chez Fashion Network, s'entretiennent avec les personnes qui façonnent le monde du luxe, de la mode et de la beauté. Nos invités partagent leur parcours, leur analyse du marché et leurs perspectives pour leur industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com, les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming. Alors, bon podcast!
Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maxime Delavallée. Bonjour Maxime.
Bonjour Olivier.
Maxime est président de la Fédération de la mode circulaire et également co-dirigeant et co-fondateur d'un acteur de la mode qui s'appelle Crush On.
Exactement.
Vous allez nous expliquer à la fois quel est le rôle de la fédération et ce que fait Crush On. Ce qui m'intéresse, c'est que la Fédération de la mode circulaire est toute jeune en fait. C'est une toute jeune fédération de la mode. Moi, j'aimerais bien que nos auditeurs, les personnes qui nous écoutent, comprennent pourquoi vous aviez besoin et qui sont les personnes qui avaient besoin de créer une fédération de la mode circulaire.
Oui, c'est vrai que ça nous fait mine de rien commencer en 2022, donc un petit peu plus tardivement par rapport à Crush On qui est né il y a 5 ans. Je pense qu'il y avait un besoin général qu'on a beaucoup ressenti, que ce soit avec les acteurs qu'on accompagne chez Crush On ou même les autres acteurs de l'écosystème avec lesquels on échange. Mais il y avait un besoin général de se rassembler et notamment de rassembler les acteurs de la circularité qui jusqu'alors travaillait pas forcément sur des problématiques communes. On avait toutes et tous la même vision de la mode et du futur de la mode, que ça serait circulaire, mais on avait chacun et chacune des activités différentes, dans la réparation, dans le recyclage, dans le réemploi, et donc des défis au quotidien qui sont assez différents. Et il y avait néanmoins cette volonté de se retrouver dans un cadre non commercial. Donc j'ai en effet cofondé Crush On il y a 5 ans avec mes associés Ilem et Camille à l'époque.
On a c'était été rejoints par l'idée de Crush On justement parce que c'était déjà sur la circularité.
Exactement. Et donc c'est de là où ça partait. En fait, on était encore en études à Sciences Po à l'époque et pour le coup, on avait déjà une fibre assez forte déjà sur l'industrie de la mode de par les études d'Ilem et Camille qui ont toutes les deux étudié à Mode Art et aussi sur les enjeux d'entrepreneuriat avec chacun et chacune pas mal de lectures aussi d'entrepreneurs chevronnés aux États-Unis, en France, qui nous ont donné envie, en tout cas, de faire bouger les lignes.
Alors, moi, ce que je voulais souligner, c'est que quand vous lancez ce projet-là, vous avez tous les trois moins de 25 ans.
Exact.
Même plutôt de 20 ans que 25.
Exact. Ouais. Alors, oui, c'est vrai. Moi, j'avais 22, il a mis Camille 23, exact. Mm. Donc, en tout cas, on formalise ça à ce moment-là avec une mission qui n'a pas changé depuis, qui est de démocratiser la mode circulaire et une raison d'être qui a été fixée aussi dans nos statuts et pour lequel on a été labellisé B Corp, qui est de supprimer le gaspillage textile. Et en effet, il y avait déjà cet axe de la circularité, cette volonté d'entreprendre fortement pour permettre à la mode de progressivement assurer sa transition vers un modèle qui soit plus responsable et sur lequel, en tout cas, on arrive à mieux contrôler et mieux gérer nos ressources. Et donc, on se lance en 2018 exactement, en parallèle de nos études, avant de passer à temps plein en 2020, avec cette mission et avec cette volonté de rassembler une communauté déjà de revendeurs professionnels de la mode circulaire, c'est-à-dire des friperies, des grossistes vintage, des marques upcycling, des dépôts-ventes, et de pouvoir rapidement les connecter à une multitude de consommateurs.
Ils se connaissaient tous ces gens-là ou c'était des acteurs chacun dans leur coin?
C'était un peu des acteurs chacun dans leur coin. Et c'est pour ça que déjà on avait cette volonté en tout cas de rassembler cette communauté qui était assez segmentée et d'en faire quelque chose d'un peu plus vivant et de faire en sorte qu'on puisse se coordonner parce que derrière on parle quand même, et on parlait déjà à l'époque, d'environ un peu plus de 200 000 tonnes de textiles recyclés et collectés chaque année par des réseaux professionnels. Aujourd'hui, on a quasiment 300 000 tonnes selon les derniers chiffres de ReFashion.
Juste pour parler de vous, à quel moment vous êtes dit en fait, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de m'occuper des vêtements qui disparaissent, mais qui disparaissent pas dans la nature.
Oui, oui. Bah, pour le coup, moi, j'avais plus une fibre entrepreneuriale de par mes expériences aussi auparavant en start-up, plutôt en stage, du coup, à l'époque, parce qu'on était encore étudiants. J'avais aussi pu travailler un petit peu au sein de la Banque mondiale à Washington, ce qui m'avait permis de voir quelques politiques publiques mises en place sur des fonctions de réemploi, de recyclage à une échelle plutôt fiscale. Et je trouvais qu'il y avait quand même un intérêt fort et qui est lié quand même à un enjeu civilisationnel de pouvoir assurer cette transition climatique. Et donc, j'avais une réelle, en tout cas, envie d'aller entreprendre spécifiquement dans la circularité et d'utiliser les leviers d'innovation qui pouvaient permettre ensuite d'aller passer des innovations à l'échelle. Et Ilem et Camille avaient beaucoup plus ce background dans la mode, étant donné leurs études, étant donné leur expérience aussi dans plusieurs boîtes de mode. Et on avait en tout cas cette volonté de transformer l'industrie en s'appuyant aussi sur nos passions. Et à l'époque, on allait souvent en friperie, on achetait souvent déjà des vêtements de seconde main, des vêtements vintage. Et donc, on s'est lancé finalement dans cette mission de pouvoir rassembler un maximum de friperies, de mark upcycling, de grossistes pour aller permettre à toutes et tous de trouver ce type de vêtements un peu partout en France, dans le monde et puis sur Internet aussi.
Et alors, comment vous faites la carte de ces acteurs-là? Parce qu'effectivement, les acteurs de la friperie, souvent, c'est des acteurs qui sont là depuis très longtemps, ouais. En tout cas sur la collecte et sur le tri, ou des acteurs qui sont peut-être qui vivent 2-3 ans dans une ville, qui sont pas forcément des spécialistes du secteur. Enfin, donc c'est assez hétérogène comme profil.
Exact. Mais pour le coup, c'est comme ça que si notre mission a évolué progressivement. Au tout début, faut imaginer 3 étudiants et étudiantes à mi-temps sur un projet. Donc on organisait des événements à Paris où on rassemblait plusieurs friperies qui parfois étaient en effet un peu itinérantes, d'autres étaient basées sur place, d'autres distribuées uniquement en ligne, mais on les rassemblait dans des événements très festifs qui permettaient de rassembler une communauté et de consommateurs, consommatrices engagés et de revendeurs professionnels de la mode circulaire. Et progressivement, on a étendu à la distribution en ligne. Le Covid est aussi passé par là, donc ça nous a permis de d'accompagner tous ces acteurs et toutes ces organisations dans une forme de transition aussi numérique, où progressivement, il y a eu un déploiement omnicanal en ligne et en physique. Et à partir de 2021, on a aussi évolué avec plusieurs partenariats en B2B et en B2B2C, avec des acteurs qui ont une ambition forte aussi à intégrer la circularité, comme Galeries Lafayette, comme aussi le groupe Printemps depuis quelques mois, ou encore Unibail Rodamco Westfield, qu'on a accompagné aussi depuis fin 2021.
Donc les centres commerciaux.
Exactement, pour vraiment les accompagner en physique et puis progressivement là maintenant en ligne aussi. Donc on vient de valider un partenariat avec La Redoute par exemple, avec plusieurs plateformes aussi spécialisées dans la seconde main, où on leur permet de se connecter comme ça à des friperies, à des grossistes, à des dépôts ventes qui peuvent avoir une quantité assez impressionnante de vêtements sous gestion et puis déjà digitalisés ou même à distribuer en physique.
Moi j'ai juste une question et je pense que c'est encore assez obscur pour pas mal de gens du secteur. Ces énormes volumes dont vous parliez tout à l'heure, ReFashion disait combien?
300 000 tonnes de vêtements qui sont collectés chaque année.
C'est énorme.
Et le pire, c'est que là-dedans, il y en a une infime minorité qui est en réalité utilisée sur le territoire. Donc il y a un vrai enjeu à pouvoir aussi retravailler sur les réseaux de réemploi, les réseaux de redistribution et faire en sorte qu'il y ait plus de fluidité là-dedans.
Et justement, ces réseaux-là, comment vous arrivez à les connecter entre eux et quel est le rôle? Parce que vous, la solution que vous voyez, en gros, c'est que ces réseaux-là soient connectés aux réseaux de distribution plus classiques de la mode?
Exactement. D'autant que c'est deux réseaux qui parlent pas du tout la même langue. D'un côté, on parle en termes de tonnes de vêtements qu'on va aller collecter sur une base constante, qui vont aller nécessiter des énormes travaux logistiques. De l'autre, c'est une connaissance du produit, de la clientèle avec laquelle on va lui matcher à une expérience bien précise en fonction du positionnement. Et c'est finalement ces deux mondes qui vont aller vouloir s'attirer, mais en même temps s'opposer mécaniquement parce qu'on n'est pas sur le même langage. Donc l'enjeu de Crushon, aujourd'hui Crushon, ça se positionne comme le système d'opération B2B de la mode circulaire, où on va accompagner n'importe quel type d'enseigne historique de la mode à aller définir son sourcing très précis de produits de mode circulaire et d'aller le sourcer directement auprès des friperies, des grossistes ou de dépôts-ventes pour être en mesure de, un, de ne pas avoir à gérer tout cet aspect logistique qui peut être très coûteux en termes de temps et de ressources. Et puis deuxièmement, de pouvoir lancer aussi une offre à l'échelle, donc vraiment avec une scalabilité assez forte dans la volonté d'aller s'étendre sur tout un réseau, une offre de mode circulaire qui corresponde parfaitement à un positionnement bien précis. Et je pense que c'est un peu l'enjeu aussi qui a, ça va nous permettre aussi de boucler la boucle, mais sur les premières ouvertures autour de la fédération, mais c'est ce qui nous a permis aussi de lancer un peu cette fédération. À l'origine, c'est tous ces revendeurs professionnels de la mode circulaire qui nous soulignaient, mais au-delà du développement commercial qu'on peut avoir via Crushon, on veut se retrouver dans un cadre non commercial, pouvoir rééchanger ensemble, pouvoir définir les enjeux symboliques, les enjeux publics et même des enjeux avec d'autres acteurs de l'industrie pour être en mesure de passer à l'échelle finalement cette circularité dans la mode.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que des fédérations dans la mode, il y en a déjà qui existent depuis des dizaines d'années. Là, il y a une vocation vraiment très spécifique.
En tout cas, il y a une volonté de travailler spécifiquement sur l'axe de la circularité. On a échangé aussi avec plusieurs représentants et représentantes d'associations aussi qui sont là depuis assez longtemps, de fédérations qui font aussi un travail remarquable sur les différents sujets, plutôt d'ailleurs de positionnement ou en tout cas sectoriel ou sous-sectoriel au sein de la mode. Nous, on avait un enjeu en tout cas de traiter cet enjeu fonctionnel de la mode qui est la mode circulaire parce qu'il y a quand même une diversité d'acteurs comme on le soulignait au démarrage, hein, sur le réemploi, sur le recyclage, sur la réparation, sur l'upcycling, sur la revalorisation des stocks dormants et j'en passe. Et il y a aussi une nécessité d'aller traiter plusieurs tailles d'organisations, avec aussi bien des entreprises naissantes qui sont très innovantes, très numérisées, comme des entreprises plutôt à échelle industrielle, historique, qui travaillent sur des énormes volumes. Donc il y avait en tout cas cette segmentation qui existait, qui n'était pas forcément traitée par d'autres, étant donné que naturellement c'était aussi un secteur assez nouveau et puis qui se développe très vite, et où il y avait en tout cas cette volonté commune de se rattacher et puis de rattacher des mondes qui se recoupent maintenant de plus en plus, avec finalement le monde historique de la distribution, donc toutes ces grandes enseignes, le monde historique et traditionnel du réemploi, du recyclage, de la réparation, le monde aussi des start-up, des scale-up du numérique qui viennent aussi apporter un vent de fraîcheur un peu sur l'industrie. En tout cas, l'idée était de croiser tous ces mondes-là dans une portée très inclusive, et c'est de là où est née la Fédération de la mode circulaire, avec cette volonté de rassembler, de représenter et puis de promouvoir la circularité dans la mode.
Aujourd'hui, c'est quoi, 200, 250 membres?
Alors, 250, c'est gentil, mais non, on est un peu plus de 200, oui. Pour le coup, membres adhérents au sein de la fédération. On va compter vraiment une diversité tout au long de la chaîne de valeur, pour le coup, de la mode circulaire. Et pour le coup, il y a ce développement assez fort et cet engouement aussi assez fort, toujours sur ces deux verticales qu'on a voulu fixer dès le démarrage. C'est important de se rassembler, mais il faut aussi avoir des projets concrets. Donc, le premier grand pilier, c'est de pouvoir travailler sur des projets opérationnels. C'est bien d'avoir ces idées communes. On a très vite travaillé à ce que, via le programme commun pour la mode circulaire, via les différentes commissions et boards qu'on a pu mettre en place au sein de la fédération, on a pu travailler à une vision commune. Maintenant, on avance sur des groupes de travail où à chaque fois, on doit aller fixer des objectifs très clairs et un livrable très clair. On a par exemple lancé, dès notre première année d'existence, cette étude de marché de la mode circulaire en France, parce qu'on avait beaucoup de chiffres aux États-Unis, beaucoup de chiffres dans le monde, mais aucun malheureusement en France, alors que c'est un vivier énorme en termes de développement.
Alors justement, ça vous l'avez présenté au printemps dernier. C'est une étude qui a été réalisée avec Accenture et qui a été présentée à l'IFM au printemps dernier. Si vous devez mettre en avant trois points clés de cette étude, vous choisiriez lesquels? Parce qu'il y avait effectivement pas mal de données, donc il y avait des données chiffrées sur le marché français voire européen, et après aussi peut-être des leviers activés.
Ouais. S'il y a peut-être trois éléments, alors c'est vrai que ça commence beaucoup.
Hein. Ça restreint.
Mais c'est premièrement, ça valide bien cette vision. Cette ambition qu'on donne toutes et tous à la mode circulaire, que le futur de la mode, il sera circulaire. On a bien donc 30% du marché qui d'ici la fin de la décennie sera dédié aux activités circulaires, que ce soit sur des matières recyclées, sur du réemploi, sur de l'éco-conception. En tout cas, on aura cette forme de circularité très forte. Et le marché croît très vite. On parle de plus de 10% de croissance annuelle sur un marché qui pèse déjà quelques milliards d'euros, en France uniquement. Donc on est sur une croissance qui est forte et qui existe. Après, il faut la mettre en pratique. Donc un deuxième grand apprentissage de cette étude, c'est qu'il y a des forces déjà existantes, donc des écosystèmes qui se structurent. On a aussi une représentation assez diverse en France. On a cette chance-là d'avoir un premier tissu industriel qui, en tout cas, via la circularité, se nourrit et se reconstitue, ou en tout cas se constitue.
Vous pensez à quoi, par exemple, sur la...
Je pense, par exemple, au secteur industriel autour du recyclage, avec beaucoup de tests aussi en cours. Je pense au CETI, aux entreprises comme Revalorem, comme JTTI aussi, qui sont adhérents à la fédération, qui, pour le coup, portent des projets industriels sur du recyclage majeur, qui vont tenter d'aller chercher ces volumes de recyclage et qui vont aller redynamiser aussi ou dynamiser en tout cas certains territoires en France. Et donc on a en tout cas cette diversité d'acteurs qui s'appuie sur un tissu industriel et sur lequel en France on a cette chance de pouvoir avoir non seulement ces acteurs industriels mais aussi plusieurs typologies d'acteurs dans la collecte, dans la gestion de la redistribution numérisée, dans la gestion de la redistribution en physique et de pouvoir en tout cas travailler avec énormément d'acteurs. Après, le troisième point, c'est qu'il y a aussi mine de rien des limites et il faut en être conscient. Aujourd'hui, on a encore du mal à passer justement à l'échelle. Faut bien comprendre que c'est un business de volume, la circularité. On n'est pas sur les mêmes prix que sur la première main. On est sur une logique aussi où on doit aller traiter des volumes en masse pour aller chercher des économies d'échelle. Quand on parle de business industriel, pour garder ce même exemple, on doit aller chercher non pas des kilos ou des centaines de kilos, mais plutôt des milliers, voire des dizaines de milliers de tonnes pour réellement commencer à constituer des unités économiques qui soient rentables et qui puissent passer à l'échelle. De même dans la redistribution, avec Rushon, on le voit même constamment, on travaille avec des grands acteurs et des grandes organisations de la redistribution et de la distrib dans la mode. Et pour le coup, il faut être en mesure de pouvoir très vite passer à l'échelle sur son réseau. Quand on voit Galerie Lafayette qu'on accompagne d'abord à Paris, maintenant aussi à Annecy et puis à Berlin et prochainement aussi en ligne, on voit qu'il y a quand même cette nécessité d'augmenter les volumes et d'être en mesure d'aller sourcer un maximum. Et c'est un point clé d'une autre limite qui avait été soulignée, mais c'est aujourd'hui, on a beaucoup de tentatives d'intégrer de la part des marques, des retailers, des marketplaces, des offres de mode circulaire, mais que c'est pas encore assez rentable.
Alors justement, là-dessus, c'était une de mes questions clés, c'est que à Fashion Network, on voit beaucoup d'initiatives qui sont lancées par effectivement des retailers, voire des marques.
Ouais.
Et que la plupart, pour l'instant, soit c'est du marketing, soit c'est de la bonne volonté, ouais. Et en disant peut-être qu'un jour ce sera rentable, ou en tout cas il faudra le faire, donc on prend déjà les devants, mais qu'aujourd'hui le modèle n'existe pas. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Est-ce qu'il y a des modèles qui sont pertinents ? Ou pour l'instant on est sur la montée en charge d'un futur modèle ?
Il y a en effet une montée en charge, il y a une prise aussi de conscience, je pense, des marques, des retailers et des marketplaces, de ces enseignes de distribution, en tout cas devoir définir une vision très claire. Il y a eu beaucoup de tests pour parfois simplement communiquer quelques temps, pour tenter d'intégrer ça un peu tièdement et puis sans forcément prendre aussi les devants. Il faut avoir une réelle ambition d'aller intégrer la circularité au modèle. Et tout simplement parce que c'est au vu des ressources qui vont être disponibles là dans les mois et années à venir, ça va représenter la majeure partie de la mode, et c'est pas moi qui le dis, c'est la majeure partie des analystes du secteur, des expertes et des experts du secteur. Donc il y a une nécessité en tout cas à bien le prendre en compte, c'est-à-dire que dans 7-8 ans, on va avoir une majeure partie, ou en tout cas un solide 30% des activités qui vont être dédiées à la circularité. Donc à partir de là, quand on est en mesure d'aller définir une stratégie de montée en puissance progressive, ou au démarrage on peut faire quelques tests pour faire des essais-erreurs, mais progressivement il va falloir passer à l'échelle dans son activité. Pour un retailer, il va falloir le déployer partout dans son réseau. Pour une marque, il va falloir transformer sa manière d'éco-concevoir, de concevoir ses produits pour faciliter ensuite la réparation ou le réemploi ou le recyclage des matières. Pour une marketplace, il va falloir aussi créer des API qui vont permettre de très facilement intégrer des flux de produits en masse, de vêtements de seconde main, de vêtements qui pourraient être aussi issus de matières recyclées, ou en tout cas des services adjoints à la réparation.
Donc c'est beaucoup, beaucoup de canaux sur lesquels il va falloir prendre des décisions. En fait.
Exactement. Et ça doit venir aussi quand même des enseignes qui sont historiquement installées. Et elles doivent se mettre en ordre de bataille et elles doivent avoir aussi une stratégie très claire là-dessus. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on pousse aussi à faire au sein de la fédération. C'est ce qu'on accompagne aussi opérationnellement avec Rushon. C'est définir une stratégie très claire pour pouvoir ensuite passer à l'échelle, parce qu'à nouveau, c'est un business de volume où pour atteindre aussi une rentabilité là-dedans, il va falloir que tous les acteurs de la chaîne collaborent ensemble, qu'on se spécialise sur différentes niches d'activité aussi dans la circularité, et que finalement, on soit en mesure d'ensuite aller dérouler le volume nécessaire pour aller atteindre aussi ces points de rentabilité dans chacun des axes de la chaîne de valeur, que ce soit la distrib, mais même ce qu'il y a en amont au niveau de la collecte, du tri, du lavage, etc. Et le plus important là-dedans, oui, c'est que quand on fait le travail aussi d'analyse d'unité économique, on se rend compte que ça peut être un modèle qui serait potentiellement même plus rentable. Je ne parle pas pour toutes les activités de production de mode, mais en tout cas, qui pourrait être plus rentable que certaines activités de production de mode classique.
Comment ça ?
Sur une activité d'économie circulaire, on n'a pas à tout reproduire de A à Z. Et on n'est pas dans une nécessité de constamment, en flux tendu, trouver des matières. Et c'est particulièrement pertinent dans le contexte actuel où on sait que les réseaux d'approvisionnement de certaines matières sont particulièrement tendus, où les coûts d'acquisition des matières premières a particulièrement augmenté. On a cette capacité en France d'avoir quand même une bonne quantité de vêtements dans une relativement bonne qualité encore pour le moment. Il faut être en mesure d'aller tirer parti de tout ça et d'être en mesure sur le territoire de pouvoir passer à l'échelle cette...
Alors moi j'ai besoin de comprendre là, quand vous dites passer à l'échelle, ouais, c'est quoi ? Ces vêtements-là, ces matières-là, on les récupère pour en faire une nouvelle matière ou on les récupère pour les revendre? C'est de la seconde main, c'est du recyclage matière.
Ouais.
On peut tout faire avec tout.
Oui, alors c'est pour ça qu'il y a en effet quelques éléments qu'il va falloir un peu préciser. Mais en tout cas, quand je parle de passer à l'échelle, il y a un enjeu à pouvoir collecter un maximum de matière. C'est d'ailleurs les objectifs fixés par le ministère de la Transition et via ReFashion, de pouvoir atteindre progressivement 50 puis 60% des matières mises, en tout cas des tonnes de vêtements mises sur le marché, pouvoir en récupérer à peu près une large majorité. Au-delà de ça, après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est aussi tout l'appareil industriel et l'appareil de redistribution des textiles et des produits qui doit être aligné avec ce passage à niveau, ce passage à l'échelle dans la collecte textile. Et là-dedans, on a plusieurs possibilités. Historiquement, on a aussi beaucoup utilisé le downcycling pour pouvoir typiquement recycler les produits dans des matières en boucle ouverte qui permettraient de faire de l'isolation, etc. Mais il faut arriver à travailler sur des boucles qui soient quand même plus productives et qui apportent davantage de valeur. Et donc notamment l'idée de pouvoir recycler la matière et d'en refaire des nouveaux fils de matière 100% recyclée. On a beaucoup de challenges aujourd'hui. Quand on se rend compte qu'il y a plusieurs matières qui composent un produit, c'est très difficile d'aller le recycler à l'échelle, donc dans une quantité industrielle.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a des avancées technologiques, si le mélange comporte plus de deux matières, ça devient très compliqué. Et exactement. Si les mélanges sont à plus de 80% d'une matière, enfin 80-20, c'est aussi plus compliqué.
Exactement. Et c'est compliqué de faire du fil long, sans entrer trop dans les détails techniques, mais c'est-à-dire du fil qui puisse être utilisé après avec une bonne qualité pour reproduire d'autres matières. On peut aussi privilégier le réemploi. Aujourd'hui, récupérer des produits dans l'état et s'assurer qu'il passe par une chaîne de nettoyage, de reconditionnement, de remise en état sur les différents canaux de distribution ouverts, c'est possible. Encore faut-il qu'on ait la capacité de le faire sur le territoire à des coûts qui soient relativement faibles ou en tout cas qui permettent une revente à prix intéressant. Et encore faut-il avoir les réseaux de distribution qui soient ouverts pour le faire. Et donc c'est là-dessus où on a une logique en tout cas de coordination entre tous les acteurs du réemploi et les acteurs aussi de la distribution qui vont devoir aussi à un moment donné intégrer ce type de produit. De même au niveau de la réparation, on a aujourd'hui beaucoup de nouvelles innovations qui se mettent en place. Je salue d'ailleurs les adhérents de la fédération comme Tilly, comme les réparables, qui font en tout cas bouger les choses. Et sur lesquels on a en tout cas cette nécessité de continuer à rassembler les acteurs pour à nouveau passer sur des volumes de réparation qui soient plus importants, améliorer la capacité à réparer à l'échelle, encore une fois, dans les différents points de vente. Mais ça, là-dessus, ça va nécessiter en tout cas une coordination toujours plus forte et une nécessité de toutes les organisations du secteur à nouveau se mettre en ordre de bataille avec des stratégies très claires d'un point de vue des enseignes et des distributeurs et d'un point de vue des entreprises dites natives circulaires, cette nécessité aussi d'aller augmenter les degrés d'investissement, augmenter la capacité à traiter ces demandes et faire en sorte de la réaliser en plus avec cette taxe de rentabilité qui va s'insérer progressivement.
Justement, un des éléments clés, c'est certainement, et qui est souvent mis en avant, la compréhension de la part du consommateur ouais. de ce qui est en train de bouger, de ce qui est en train de se transformer dans le secteur. Cette transformation du secteur, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle est bien comprise par le consommateur? Et les enjeux, est-ce qu'il faut encore beaucoup lui expliquer?
Ouais. Il y a en tout cas une sensibilisation auprès du consommateur et auprès des consommatrices qui doit être très forte. C'est d'ailleurs un devoir qui est non seulement celui des entreprises, mais aussi celui des pouvoirs publics aussi à l'accompagner. C'est un des sujets qu'on défend dans le programme commun pour la mode circulaire, donc programme qui rassemble toutes les propositions de mesures et toutes les propositions d'ailleurs des entreprises et des organisations du secteur via la fédération. Et dedans, on a tout un axe autour de l'éducation et de la consommation, et spécifiquement sur la sensibilisation auprès des consommateurs. Donc il y a une nécessité de pouvoir aussi assurer une manière de consommer qui soit durable et qui soit surtout bien expliquée auprès des clients finaux. Et là-dessus, le gouvernement est en train de travailler aussi sur un affichage environnemental. On a certains de nos adhérents, certains de nos partenaires avec la fédération qui travaillent là-dessus. Je pense que ça servira en tout cas, quelle que soit à la fin la méthode choisie, mais ça servira en tout cas à bien définir ce qu'est un produit qui puisse être un peu plus responsable qu'un autre. Il faudra néanmoins le passer aussi à nouveau à une échelle européenne pour déjà arriver à être harmonisé dans la grille de lecture de tous les consommateurs et toutes les consommatrices européennes et s'assurer que derrière, on puisse avoir aussi une bonne application de tout ça par les marques et par les différentes enseignes qui distribuent ces produits. Et ça sera un enjeu clé parce que on se rend compte qu'il y a encore beaucoup trop de greenwashing, de social washing aussi. Quand on regarde certaines marques qui produisent aussi énormément à l'étranger, qui indiquent la composition de matière alors qu'elle n'est pas totalement vérifiée ni vérifiable, on a quand même quelques soucis aussi d'application des lois là-dessus. Et donc, ça sera un enjeu en tout cas à pouvoir bien réaliser ça, mais il y a une nécessité en tout cas à aller accompagner les citoyens et les citoyennes, même au sens large, dans leur manière de consommer. Et on pense aussi avec l'intégralité des acteurs et des organisations de la Fédération de la mode circulaire qui sera important de passer par le levier de l'éducation aussi par rapport à ça. Donc on échange aussi avec notamment certains membres du gouvernement à ce sujet-là, avec certaines universités aussi à ce sujet-là, parce que c'est par là que ça passera, c'est en éduquant aussi au mieux les élèves, les étudiants, les étudiantes qui travailleront ensuite à en tout cas diffuser ces valeurs de consommation aussi plus responsables, qu'on arrivera aussi au bout de tout ça. Donc en tout cas c'était des mots d'ailleurs, et j'en profite, mais c'était des mots qui m'avaient moi beaucoup touché quand on avait organisé cette journée de la mode circulaire dont vous parliez, Olivier. On l'a organisée le 17 avril donc à l'Institut français de la mode. On avait la présence de Madame Bérangère Couillard, ministre de l'écologie, et aussi un discours du directeur général de l'IFM, Xavier Romatet, qui soulignait que la circularité c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir outrepasser, c'est quelque chose de nécessaire, d'obligatoire, et sur lequel on devra s'appuyer sur l'éducation et les étudiants, et spécifiquement les étudiants de l'IFM, pour travailler aussi à une mode qui soit plus responsable. Et c'est en tout cas quelque chose de très fort, et je pense que je m'aligne beaucoup avec cette vision. C'est finalement en accompagnant aussi tous ces leaders, ces futurs designers, ces futurs managers et manageuses dans l'industrie, mais aussi au sens large dans l'économie, qu'on arrivera aussi passer à l'échelle, pour me répéter, cette économie plus circulaire et ces méthodes plus durables.
Justement, le passage à l'échelle, il passe par, si je suis bien, aussi de l'innovation et de l'utilisation probablement de données, comme c'est un élément clé aujourd'hui pour les passages à l'échelle de beaucoup d'industries. Est-ce que ça, vous voyez qu'il y a des progrès sur ces sujets-là, et quelles peuvent être les innovations, les développements qui peuvent vraiment accélérer cette transition?
Oui, c'est très juste. Il y a vraiment beaucoup d'innovations actuellement en cours sur le secteur. Il y a une réelle volonté en plus de pouvoir continuer à tirer parti de toutes ces données qui peuvent être produites. Mais en tout cas, déjà dans un premier niveau aussi de compréhension de l'écosystème, il y a en tout cas beaucoup d'innovations qui sont menées, spécifiquement dans la mode circulaire, mais aussi on est en échange avec plusieurs autres industries et autres organisations d'autres industries dans l'électronique, dans l'électroménager, dans le mobilier. En tout cas, il y a beaucoup d'innovations qui visent à circulariser notre économie. Et c'est important que, en tout cas, les pouvoirs publics puissent aussi continuer à aller soutenir ces différentes innovations, à travers des types de financement, à travers des programmes d'accompagnement, à travers aussi des moyens d'aller booster la consommation de tous ces types de services et de produits.
En tout cas, juste rebondir là-dessus, mais ça veut dire que on peut aussi aller voir ce qui se fait chez les petits copains entre guillemets des autres secteurs, parce qu'il y a des choses, il y a des choses qui sont faites déjà sur différents segments.
Complètement, mais typiquement dans l'axe de la réparation, on peut prendre l'exemple du vélo. Pour le coup, c'est quelque chose qui s'est développé énormément. Vous avez peut-être dû voir aussi à Paris, il y a de plus en plus d'espaces qui sont dédiés à ça. On a aussi une TVA, une taxation qui est alignée aussi sur les services de réparation de vélos, qui est diminuée pour permettre aussi d'inciter les consommateurs et les consommatrices européennes à aller se tourner vers de l'acte de réparation sur le vélo. En tout cas, on peut s'inspirer de plein d'autres industries, et c'est vraiment clé de ne pas penser seulement à la circularisation de la mode. Alors, c'est un podcast dédié à ça, donc on peut en parler, mais c'est important de bien prendre aussi cette vision holistique où on a cette capacité, on est à ce moment clé et à ce moment charnière en France et en Europe, de pouvoir devenir une industrie leader dans l'économie circulaire et de pouvoir circulariser l'intégralité de notre économie. Et c'est vraiment un sujet clé de pouvoir vraiment partager avec tous les autres secteurs cette capacité à réfléchir en commun, parce qu'on peut tirer parti et s'inspirer de chacune des industries. Et on pourra comme ça arriver à constituer une réponse globale. Et spécifiquement sur l'enjeu aussi d'aller leverager de la donnée, je pense qu'à terme, plus on sera connecté aussi à tout l'écosystème des startups du numérique ou encore des innovations numériques au sens large, pas seulement dédiées à la mode, mais qui vont aller utiliser la donnée pour aller travailler sur des solutions plus long terme, piloter mieux sa stratégie de sourcing, de redistribution, de produits de masse, d'analyse de produits, d'analyse des tendances. En tout cas, toutes ces différentes manières d'aller analyser la donnée, on sera en mesure de pouvoir aussi à nouveau passer à l'échelle et surtout prendre des décisions beaucoup plus éclairées dans la manière d'aller passer à l'échelle cette circularité. Et on a aussi donc quelques adhérents au sein de la fédération, dont Luxury Insight, dont aussi des solutions de traçabilité qui vont aller aussi, donc je pense à Trace for Good, je pense à Clear Fashion, qui vont aussi faciliter le suivi des données sur le produit et leur analyse. C'est en tout cas quelque chose de vraiment clé pour pouvoir aussi, au-delà des différents tests et erreurs, mais réellement passer à l'étape d'après dans la capacité à aller comprendre la structuration du marché et sa manière de le piloter au sens large.
Vous, depuis que vous avez lancé Crushon, et de manière encore un peu plus large depuis que la fédération a été créée, quel frein majeur vous voyez dans la transformation du secteur? Peut-être que vous n'étiez pas préparé à être confronté à certains mouvements, à certaines réactions. C'est quoi les éléments qui vous ont le plus surpris depuis 5 ans?
Alors, je pense qu'un des éléments qui m'a quand même le plus surpris positivement, du coup, mais c'est cette adoption quand même progressive de toutes ces nouvelles activités circulaires. Quand on commence en 2018, alors on était forcément moins connectés, mais on était encore étudiants à l'époque. On avait une activité qui se limitait à quelques dizaines de friperies qu'on accompagnait dans leur capacité à distribuer leurs produits majoritairement offline. Mais on avait surtout, en tout cas, une impression d'être un peu vus comme des ovnis. On nous a d'ailleurs souvent dit ça dans certains incubateurs. On était un peu l'entreprise OVNI parmi les différentes promos. Donc c'était un peu le sujet, et plus on a avancé, dès 2020, dès 2021 notamment, on a eu cette vraie accélération dans l'adoption de toutes ces normes. Alors je ne sais pas si le Covid a vraiment joué là-dedans, je pense qu'il y avait aussi une transition progressive qui se mettait en place, mais quoi qu'il en soit, il y avait une réelle adoption de la part des grandes enseignes, les grands s'y mettent, c'était un peu ce que j'entendais souvent aussi dans le cadre des précédentes interviews que j'avais pu faire, et pour le coup c'est en tout cas assez salvateur de voir que des grandes enseignes, des grands groupes décident aussi de s'y mettre et de s'y mettre correctement avec une ambition qui soit bien construite et une feuille de route qui soit bien construite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et ça, c'était peut-être un petit peu moins positif, mais c'est que fondamentalement, personne ne se parlait. Et je pense qu'on a encore beaucoup de boulot à faire pour que tout l'écosystème puisse se parler et se coordonner. Ce dont je suis certain, c'est que avec cette adoption qui est rapide de la part de la plupart des organisations, avec cette volonté d'avancer en commun pour la majorité des organisations, on va être en mesure d'aller constituer une réponse globale avec la société, avec les pouvoirs publics, avec les associations, avec les entreprises qui souhaitent avancer. Et moi, ça me donne en tout cas beaucoup d'espoir. Après,
je vous sens assez optimiste quand même sur la capacité des acteurs historiques, mais aussi avec le nouvel écosystème, de trouver les solutions pour vraiment transformer ce secteur de la mode et du prêt-à-porter.
Complètement, faut simplement se mettre autour de la table, arriver à se rassembler aussi, arriver à fixer quelles sont nos priorités ensemble, collectives, pour aller atteindre justement ces niveaux qui semblent être assez énormes. Finalement, quand on se dit un tiers de la mode en termes de valeur marché à la fin de la décennie qui doit être circulaire, ça semble énormissime. Fondamentalement, on a tous les leviers pour le faire. On est dans un pays où, à nouveau, il y a une vraie diversité d'acteurs, il y a une vraie connexion, il y a un marché aussi unique avec l'Europe qui ouvre aussi des voies à passer à l'échelle cette distribution et cette capacité à générer aussi pas seulement du revenu, mais aussi du profit. Mmh. Et en l'occurrence, moi, ça me rend très optimiste. Il faut après qu'on soit en mesure d'aller sortir de certains vieux réflexes, être en mesure de se connecter aussi avec l'intégralité des organisations du marché. C'est la vision qu'on porte aussi avec la fédération, de vouloir faire en sorte que tout le monde puisse se parler, que nos études soit le plus public possible aussi avec l'intégralité. Bien entendu, on préserve aussi la confidentialité de tous les participants et toutes les participantes, mais sur les grandes tendances qu'on arrive à en sortir, les rendre publiques et les partager à tout le monde. C'est en tout cas moi, c'est mon sentiment, c'est qu'on a, énormément de potentiel collectivement à aller chercher. Il n'y a plus qu'à. Et en l'occurrence, c'est maintenant ou jamais. Donc, ça sera vraiment clé qu'on puisse continuer à avancer dans cette direction parce qu'on est en train de prendre la bonne direction.
Super, continuons dans cette direction pour tout le secteur. Alors, Maxime de la Vallée, merci beaucoup pour cet échange.
Un grand merci, Olivier.
C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.
Vous venez d'écouter le podcast Luxury Insight et Fashion Network. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres insights exclusifs de leaders de l'industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com et toutes les plateformes de streaming.